Les faucheurs volontaires emploient les moyens de la désobéissance civiquement violente en agissant à visage découvert.
La banderole de tête de cette manifestation, ça va être « Change le système, pas le climat ».
La vie est en chute libre dans tous les secteurs. La situation globale de la planète relève de l'extermination.
L'eau, la terre, l'eau, le jour du dépassement, la terre.
Bonjour, vous êtes sur CFM et vous écoutez Les Croissants Décroissants, un magazine d'écologie sans chichi.
Un seul monde pour nos enfants, assurément. L'eau, la terre, l'eau, la terre, l'eau, le jour du dépassement.
Vous êtes toujours sur CFM et vous écoutez toujours Les Croissants Décroissants, un magazine d'écologie sans chichi. Pour vos avis, commentaires, suggestions, vous pouvez écrire à lescroissantsdécroissants@gmail.com. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'isolation, ou plutôt le confort thermique d'un habitat, car l'isolation est juste un élément parmi d'autres. Alors, avoir chaud, qu'est-ce que c'est ? C'est le confort. Se sentir bien en hiver, mais aussi en été, et donc finalement ne pas avoir trop chaud en été. Ce qui crée le confort, c'est la température de l'air, mais pas que. C'est, pour beaucoup, la température des surfaces autour de nous. Il peut faire moins 40, on est en plein soleil, on aura chaud. L'autre élément, c'est l'homogénéité de la température. Si dans votre pièce, vous avez des endroits où il fait froid, des endroits où il fait chaud, c'est fortement désagréable. C'est également l'hygrométrie qui est importante. La stabilité de la température, si en quelques minutes, vous passez de chaud à froid dans la même pièce, c'est fortement désagréable également. Et enfin, c'est l'adéquation de la température à l'activité. Vous n'avez pas le même besoin que vous soyez sous la douche ou que vous soyez en train de faire du sport. Pour résumer, la température ressentie, c'est à peu près la moyenne entre la température de l'air et la température des parois autour de nous. Chaque usage a des besoins différents, nous venons de le dire. Une maison qui est habitée à l'année, ou de temps en temps, ce n'est pas du tout la même chose. Une pièce qui est utilisée de jour, de nuit, ce n'est pas du tout la même chose. Un passage ponctuel, comme par exemple une salle de bain, c'est un autre usage. Combien d'habitants y a-t-il dans notre maison ? Car chaque habitant aura ses habitudes et ses demandes et produira également de l'énergie. Quels sont les usages ? Est-on dans une salle de sport ? Est-on dans la cuisine ? Est-on là pour dormir ? Auquel cas, il est plus agréable d'être dans une pièce fraîche. Alors, souvent, on nous parle d'isoler. Mais qu'est-ce qu'isoler ? En fait, c'est gérer les flux de chaleur. Isoler, c'est freiner les échanges thermiques, notamment entre l'extérieur et l'intérieur. Un point important, il ne faut pas gâcher de l'isolant avec des ponts thermiques. Un pont thermique, c'est d'avoir de l'énergie qui vient de l'extérieur et qui rentre à l'intérieur ou de l'intérieur vers l'extérieur. Un pont thermique peut être par exemple un plancher, mais un pont thermique très important, ce sont les fils de cuivre. Le cuivre est 10 000 fois plus conducteur que les isolants. Laisser 3 fils traverser de l'isolant, c'est retirer en gros 1 mètre carré d'isolant. Alors, isolons, oui, mais finalement pas avec n'importe quoi, car l'impact environnemental d'isolant peut être important. On appelle ça l'énergie grise. C'est l'énergie utilisée pour fabriquer un bâtiment basse consommation, qui a une durée de vie aujourd'hui estimée à 80 ans, c'est 30 à 50 ans de sa consommation elle-même. Si on vient mettre des laines de verre, c'est un impact carbone bien plus important que si on vient mettre de la paille pour l'isolant. Il serait donc inutile d'isoler avec des matériaux qui demandent une forte consommation d'énergie lors de leur production. Sinon, finalement, autant chauffer la maison avec l'énergie qui est utilisée pour fabriquer le panneau. Alors, on nous parle souvent d'isolation intérieure ou extérieure. Et le mieux, c'est l'extérieur. En fait, cela dépend des usages. Intérieur, il n'y a pas d'inertie. On va pouvoir chauffer très rapidement le lieu. C'est plutôt dédié à des zones où on va très rarement. Une chambre d'amis, une location et une salle de bain. L'isolation extérieure, par contre, conserve l'inertie du bâtiment. C'est pour un lieu plutôt habité en permanence. Il y a des avantages et des désavantages. L'isolation intérieure crée beaucoup de ponts thermiques. Par contre, elle est facilement mise en œuvre. L'isolation extérieure, il y a très peu de ponts thermiques. Par contre, on vient modifier la façade et il faut également prolonger souvent les toitures. Il existe une méthode alternative qui sont les enduits isolants qui vont permettre de créer une couche de chaleur sur le mur et on l'a vu, un mur chaud en fait une pièce confortable. Un élément important également, c'est l'étanchéité à l'air. Il ne faut surtout pas avoir des flux d'air froid ou des flux d'air chaud dans notre maison. On va donc éviter les points d'entrée froids, les points d'entrée chauds, et cela évite également les points de condensation qui vont abîmer nos murs. Mais en contrepartie, il faut ventiler. L'étanchéité à l'air permet d'assurer une maîtrise de la condensation et des flux d'air dans la maison. Alors, pourquoi également ventiler ? Dans notre maison, nous avons énormément de polluants. Par exemple, les meubles en aggloméré, les peintures, les isolations de type fibre de verre, ce sont des polluants qu'il faut évacuer. Nous l'avons vu, il est important d'avoir une température de surface importante pour avoir un confort. Alors, pourquoi finalement augmenter la température du mur ? On l'a vu, le confort dépend de la moyenne entre la température de l'air et la température du mur. Si on a un mur à 18 degrés et la température de confort est de 19 degrés, cela veut dire qu'il faut chauffer de l'air à 20 degrés. Si par contre notre mur n'est pas à 18 degrés mais à 15 degrés, il va falloir augmenter la température de l'air pour avoir un confort analogue à 23 degrés. On a donc un air intérieur qu'il va falloir réchauffer plus, un air que l'on va renouveler, donc il va falloir encore plus chauffer. Il y a également une différence de température entre l'extérieur et l'intérieur plus importante. On va donc avoir des départitions plus importantes. Il est donc intéressant d'avoir une température de surface des murs plus importante. Alors, comment faire ? Les anciens savaient bien y faire. Ils avaient peu d'énergie à disposition. Et donc, ils mettaient, par exemple, des tentures au mur en hiver. Et en été, pour avoir plus frais, ils retiraient les tentures et le mur frais créait du confort thermique en faisant une pièce fraîche. Alors nous, on peut également mettre des tentures. Mais on peut également, pour l'hiver, avoir des murs avec des parements en bois. On peut mettre de la chaux, de la paille, du papier. En été, on peut avoir des pièces avec des parements en pierre, en carrelage, qui vont refroidir notre air. À l'extérieur, on a le rayonnement solaire qui vient apporter de l'énergie. Dans les pays du Sud, en général, on peint nos murs en blanc. Pourquoi ? Parce que le blanc va réfléchir la chaleur du soleil et ainsi la maison ne va pas trop se chauffer. On peut jouer également sur la rugosité. Le rugueux échange plus de chaleur que le lisse. Alors justement, comment produit-on de la chaleur ? Eh bien, on vient de le voir, il y a le soleil qui apporte de l'énergie, il y a également les habitants. À l'époque, on utilisait également les animaux. La cuisine, les machines vont aussi apporter de l'énergie dans la maison. Sinon, on peut avoir le chauffage traditionnel au bois ou autre. Alors justement, le chauffage au bois. Brûler, cela demande une présence d'oxygène. On va donc finalement absorber beaucoup d'air. En gros, on peut considérer qu'il faut environ 10 mètres cubes d'air pour 1 kg de bois brûlé. La combustion va donc aspirer de l'air froid de l'extérieur. Il faut donc réchauffer cet air. On vient donc aspirer de l'air froid pour le réchauffer, pour chauffer notre maison. C'est un peu absurde. C'est pour ça qu'en général, on provisionne une arrivée d'air spécifique pour la combustion de notre poêle. On peut également compter sur la transpiration des murs, mais cela seulement sur les murs anciens qui sont capables de contenir de l'eau. Ou sur des végétaux, c'est-à-dire qu'en transpirant ces végétaux, ou ce mur va produire du frais. C'est pour ça que dans certains pays, quand il fait très chaud, on arrose les murs ou le sol. Alors, on cherche également à stocker ou évacuer la chaleur en fonction des saisons. Évacuer, c'est simple, il s'agit de ventiler. On peut stocker de l'énergie, stocker notre chaleur pour utiliser la chaleur de l'été en hiver, la chaleur du jour durant la nuit. La pierre accumule très fortement la chaleur, sans beaucoup augmenter en température. Le polystyrène, lui, par contre, va augmenter très vite en température. Pour simplifier, il faut de la masse, des murs, des dalles, des hérissons, des cuves d'eau. Cela crée de la masse, cela crée de l'inertie, cela permet de stocker de la chaleur. Pour résumer, le confort, c'est la température de l'air, mais aussi celle de surface. Et rien ne sert d'isoler si l'isolant demande autant d'énergie à être fabriqué qu'il faudrait pour chauffer la maison. La suite en musique.
Vous aimeriez vous appeler salade de fruits ? C'est un joli nom, n'est-ce pas ? Mais écoutez plutôt ce qu'en dit Bourvil.
Ta mère t'a donné comme prénom salade de fruits. Oh, quel joli nom! Au nom de tes ancêtres havaïens, il faut reconnaître que tu le portes bien. Salade de fruits, joli, joli, joli. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, joli, joli, joli. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. pendu dans ma paillote au bord de l'eau. Il y a des ananas, il y a des noix de coco. J'en ai déjà goûté, je n'en veux plus. Le fruit de ta bouche serait le bienvenu. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. Je plongerai tout nu dans l'océan pour te ramener des poissons d'argent. Avec des coquillages lumineux, oui, mais en échange, tu sais ce que je veux. Salade de fruits, joli, joli, joli. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, joli, joli, joli. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. On a donné chacun de tout son cœur ce qu'il y avait en nous de meilleur. Au fond de ma paillote au bord de l'eau, ce panier qui bouge, c'est un petit berceau. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à ton père, tu plais à ta mère. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. C'est toi le fruit de nos amours. Bonjour, petit.
C'est une archive de Lina, Bourville, salade de fruits. Vous êtes toujours sur CFM, vous écoutez Les Croissants Décroissants. Aujourd'hui, nous parlons du confort thermique. Après avoir parlé vraiment du confort, nous allons parler de l'isolation. Pour isoler, il faut des matériaux.
Termine l'isolation de la maison. J'ai pris de l'isovert. Ils ont plein de nouveaux produits, c'est génial. Et là, on va commencer à faire de sérieuses économies.
On l'a vu, l'idée est de freiner le flux de chaleur entre l'intérieur et l'extérieur. En hiver, il y a une différence de température entre l'extérieur et l'intérieur. Eh bien, cela implique une épaisseur d'isolant pour l'hiver. En été, il s'agit plutôt de stocker la chaleur, de créer un déphasage. Cela implique une épaisseur d'été. Alors, vous n'allez peut-être pas vous amuser à chaque fois à remplacer votre isolant pour l'été ou pour l'hiver. Il existe un autre élément à prendre en compte, c'est l'énergie chimique grise, l'énergie de fabrication de notre isolant, car il ne faudrait pas que notre isolant demande plus d'énergie à être fabriqué que pour chauffer notre maison. Il se trouve que seuls les matériaux biosourcés permettent de répondre à ces trois critères, d'avoir une épaisseur d'hiver, une épaisseur d'été qui soit à peu près analogue et qui ont une faible énergie grise contenue dans le matériau. Ces matériaux biosourcés sont la laine de bois, la paille, le chanvre, la laine, la ouate, le liège, les plumes et ainsi de suite. Alors, pourquoi est-ce qu'un isolant isole ? En fait, il s'agit d'emprisonner de l'air statique. Il faut encapsuler beaucoup d'air. C'est l'air finalement qui isole. On a vu également, ce qui est important, c'est la masse, la capacité thermique. En effet, si on vient chauffer du carrelage, eh bien, on peut mettre énormément d'énergie dans ce carrelage avant qu'il augmente de quelques degrés. Par contre, si on fait exactement la même chose avec de la laine de verre, très rapidement, elle va prendre de la température. L'inertie, c'est également ce qui va venir chauffer ou refroidir l'air qui rentre, et donc stabiliser sa température. La laine de verre, la laine de roche ou le polystyrène ne conviennent pas du tout aux critères qu'on s'est imposés. En effet, ils demandent énormément d'énergie. Et également, ils demandent des épaisseurs très différentes en été et en hiver pour assurer le confort. Pourquoi ? Parce qu'ils sont légers. D'autre part, il se trouve que le polystyrène, ça brûle. Alors vous allez me dire, oui, mais la paille, ça brûle. Pas exactement, car si vous isolez par exemple votre toiture avec de la paille, d'un côté et de l'autre côté avec de la laine de verre, vous mettez le feu en dessous pendant 50 minutes. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, votre paille n'aura pas bougé. À sa surface, elle sera à la même température qu'à l'extérieur quasiment. En dessous, elle sera légèrement noircie. Par contre, de l'autre côté, la laine de verre n'aura pas du tout emmagasiné la chaleur, elle l'aura transférée vers l'extérieur et du coup, vous aurez carbonisé votre toiture et elle va s'effondrer. C'est peut-être contre-intuitif, mais il se trouve que la paille a une capacité thermique telle qu'elle est capable de vous couvrir contre le feu. Dans l'isolation, il faut également gérer l'humidité. En effet, à l'intérieur de la maison, on a des sources d'humidité, la salle d'eau, les habitants, les cuissons, les machines. Et il faut sortir cette humidité à moins de vouloir créer une champignonnière à l'intérieur de la maison. Il existe également d'autres polluants comme les COV, les fibres de l'isolation qui se retrouvent dans l'air. Il faut donc ventiler, on peut le faire avec des moyens mécanisés. On peut également stocker l'humidité de manière temporelle, notamment dans une salle de bain, en utilisant des argiles ou de la laine de mouton. L'humidité ne va pas détériorer ces supports. Par contre, ensuite, une fois qu'on a pris sa douche, l'humidité est dans le mur et va être relâchée petit à petit dans l'air, ce qui permet finalement d'avoir une ventilation sous-dimensionnée par rapport à ce qui est préconisé. L'autre point défavorable à l'humidité, c'est que l'eau est un excellent conducteur et également a une capacité thermique énorme. Si on a trop d'humidité, on va devoir chauffer cette eau et donc perdre finalement de l'énergie. Le mur doit évacuer l'humidité. Il ne faut surtout pas installer de pare-vapeur. C'est le début de plein de problèmes. Il faut installer un frein vapeur, quelque chose qui va freiner la vapeur. En effet, un pare-vapeur finalement va être bloqué la vapeur partout, sauf aux endroits où il est mal installé, et il y en a forcément. Du coup, il va créer un point d'humidité très important et cela aura des répercussions sur les ouvrages. Alors, quand on parle isolation, on parle forcément fenêtre. Il faut savoir qu'une fenêtre, on considère que c'est à peu près l'équivalent d'un radiateur. L'énergie du soleil qui passe à travers une fenêtre, c'est l'énergie apportée par un radiateur. Par contre, il faut du verre simple, double ou triple. En fait, la question doit être posée un peu différemment. Où se trouve la fenêtre? Il se trouve que plus on ajoute de verre, moins finalement il y a d'énergie qui rentre dans notre maison. Donc il y a un compromis à faire. De manière générale, on considère qu'il est plutôt recommandé d'avoir du double vitrage sur la plupart des zones et éventuellement du triple vitrage sur les zones plutôt exposées nord. Par contre, il faut faire attention. Une fenêtre, c'est un radiateur. Une très grande fenêtre, c'est beaucoup de radiateurs. Il faut donc éviter les surchauffes dues aux très grandes ouvertures en plein soleil. Pour ce faire, on peut avoir une très grande ouverture, certes pour l'hiver, pour ramener de l'énergie et de la chaleur dans notre maison. Par contre, il faut des casquettes au-dessus afin d'éviter que le soleil d'été, qui est beaucoup plus haut dans le ciel, vienne réchauffer notre maison. Quand on fait l'isolation d'une maison, il ne faut surtout pas tuer un axe d'amélioration. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous décidez de changer l'isolation de votre grenier, souvent le plus recommandé, surtout ne lésinez pas. Il faut installer une épaisseur très conséquente, même par rapport à la norme actuelle. En effet, vous êtes en train de faire des travaux, il serait dommage de devoir les refaire d'ici 10 ans. Il se trouve qu'il y a également une particularité de la maison ancienne. La maison ancienne a très rarement des ponts thermiques. Il y a peu de murs de refend, les sols sont en bois et non pas des planchers. Et non pas des planchers en béton qui créeraient des ponts thermiques entre le mur et les sols. Les murs d'une maison ancienne respirent. Il ne faut surtout pas mettre de parements étanches dessus, tels que le ciment. Il vaut mieux mettre de la chaux ou de la terre. Il faut éviter également de trop drainer les murs car vous risquez d'endommager la structure de votre mur. Une autre question se pose sur les maisons anciennes. Faut-il isoler ou non les murs, notamment les murs exposés? Il se trouve que sous nos latitudes, la masse thermique des murs anciens est énorme. Ils vont recevoir de l'énergie du soleil pendant certains jours et ensuite la restituer pendant les jours gris. Les murs sont tellement conséquents que finalement, ils sont non déperditifs sur les périodes de chauffe d'octobre à avril. C'est-à-dire qu'ils reçoivent autant d'énergie solaire durant ces périodes-là qu'ils ne perdent d'énergie. Sachez également que les bâtiments basse consommation peuvent exister en rénovation. C'est possible et c'est même d'ailleurs prévu par les textes de loi. Pour résumer, le confort, ce n'est pas que l'isolation. C'est un compromis entre le confort d'été et le confort d'hiver en jouant sur l'isolation et sur la masse. Les matériaux biosourcés répondent souvent à l'ensemble de ces critères. On a vu également qu'il n'y a pas forcément besoin d'isoler certains murs. Malheureusement, ce n'est pas subventionné. Mais bon, ça demande juste finalement de la réflexion et de ne rien faire. Pour aller plus loin, je pourrais vous recommander quelques lectures comme « La conception bioclimatique » de Jean-Pierre Oliva et Samuel Courget et des mêmes auteurs « L'isolation thermique écologique ». Vous pouvez également consulter le site de l'association Arcane. On veut du Rubrique Greenwashing. La rubrique Greenwashing s'intéresse aujourd'hui aux fabricants de laine de bois. Alors, si je regarde leur documentation, je vois isolant naturel écologique à base de fibres de bois. Sauf que si je regarde la fiche technique, je vois polyoléphine, qui est en fait du polyéthylène, notamment dans les isolants semi-rigides. Il se trouve que la fibre de bois n'est pas assez solide pour tenir sous forme de matelas. On ajoute des fibres plastiques afin de créer cette structure. Dans les isolants rigides, on trouve de la résine de polyuréthane, un autre agent chimique très toxique. Alors la solution, c'est l'utilisation du vrac, que ce soit pour la laine de bois, des copeaux, de la paille. C'était Les Croissants Décroissants, un magazine d'écologie sans chichi. Et n'oubliez pas, pour poster vos avis, vos commentaires ou vos suggestions, vous pouvez écrire à lescroissantsdécroissants@gmail.com. À la prochaine.
Les faucheurs volontaires emploient les moyens de la désobéissance civique non violente en agissant à visage découvert.
La banderole de tête de cette manifestation, ça va être « Change le système, pas le climat ».
La vie est en chute libre dans tous les secteurs. La situation globale de la planète relève de l'extermination.
L'eau, la terre, l'eau, le jour du dépassement, la terre, moins deux, pas de dépouillement, l'eau, la terre, on a un seul monde pour nos enfants, assurément, l'eau, la terre, l'eau, la terre, l'eau, le jour du dépassement, la terre, moins deux, l'eau, pas de dépouillement, la terre, on a un seul monde pour nos enfants, assurément, l'eau, la terre.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous ne sommes pas seuls sur cette planète. Et si nous continuons dans ce modèle, nous allons droit dans le mur.